Frédéric Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On va parler avec vous de ce nouvel environnement hein, sur les marchés. Vous avez suivi comme nous, bien sûr, de près ce qui s'est passé, notamment sur les taux en Europe. Comment vous avez analysé, vous, ces derniers mouvements assez rapides, finalement ?
Sur les taux, je crois que finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les marchés obligataires sont encore vivants. C'est-à-dire qu'on pensait effectivement que les achats massifs de la BCE allaient comprimer les courbes obligataires sur des niveaux très bas pour longtemps, que ça n'allait plus bouger. Au contraire, finalement, on a un rebond économique européen, on a un assouplissement quantitatif qui finalement nous fait croire, nous laisse penser en tout cas, que ce rebond économique est durable et donc une renaissance des anticipations d'inflation et du coup, effectivement, une hausse des taux. Donc voilà, on constate finalement que tout ça répond encore aux fondamentaux. Donc les taux montent, pour nous ils vont encore monter, l'économie européenne est bien ancrée dans un retour à la croissance, on commence à voir des signes de léger retour de l'inflation, seule la Grèce sur un an maintenant est en déflation, donc des taux qui sont encore très très bas et qui pourraient monter, peut-être refaire une fois ce qu'ils ont fait encore ces dernières semaines.
Alors en même temps, on a eu peu de temps après déclaration de M. Curé à la Banque Centrale Européenne et lui, finalement, il nous parle du QE de mai-juin, donc de dire que la Banque Centrale Européenne sera là pour acheter effectivement en mai-juin. Alors peut-être qu'il y a quelques semaines encore, on se disait, bon, bah, elle avait fait son job et ça allait se calmer. Ça contrebalance ou pas ce qui s'est passé ?
Il y a eu effectivement des éléments techniques. Je crois qu'en plus, pendant cette période, la BCE a décidé d'acheter des obligations plutôt courtes. Alors du coup, les obligations longues ont eu du mal à trouver preneur, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'émissions. Donc ça a créé aussi ce mouvement. Je crois qu'effectivement, la BCE va continuer d'acheter des obligations et donc maintenir des taux probablement plus bas qu'ils ne devraient être. Mais compte tenu du retour de la croissance économique, on peut estimer que les taux devraient de toutes les façons être plus hauts. Donc voilà, la BCE va être là, je dirais, pour deux choses, pour faire baisser les taux obligataires, en tout cas les maintenir plus bas qu'ils ne devraient, mais quand même un peu plus haut qu'aujourd'hui. Et puis si jamais, à un moment donné, hélas, on n'arrive pas à un accord, notamment en Grèce, eh bien maintenir, je dirais, une certaine cohésion dans le marché obligataire, éviter qu'il y ait trop de vendeurs sur les obligations espagnoles et italiennes, et donc maintenir effectivement une certaine sécurité financière.
Oui, parce qu'on a parlé, en tout cas on a pu voir des titres sur un sell-off, une vente massive, donc ça a pu faire peur à un moment donné en se disant ça y est, c'est parti.
Alors on parle beaucoup de 94, c'est dans toutes les mémoires. Nous on pense effectivement qu'il peut y avoir encore du sell-off sur le marché obligataire, mais pas dans une ampleur telle qu'on avait en 94, parce que malgré tout, donc on a des banques centrales qui surveillent ce marché, et puis on a une croissance économique en Europe qui reprend, certes, et aux États-Unis, voilà, qui va être probablement notre meilleur, mais on ne retrouvera pas des taux de croissance très très élevés, et on reste quand même dans un environnement faiblement inflationniste, donc dans l'ensemble quand même des taux qui vont rester bas longtemps, mais voilà, tout de même pas si bas.
Alors du côté des États-Unis, on a vu aussi là un certain nombre d'évolutions. Quand on regarde un peu les sondages, il y en a peu qui aujourd'hui anticipent une hausse de taux au mois de juin, ça commence maintenant à être clair, on est plutôt sur la deuxième partie d'année. Qu'est-ce qui a changé aux États-Unis pour vous ?
Alors, aux États-Unis, ce qui est en train de changer quand même, c'est une amélioration sensible des conditions de l'emploi, qui fait qu'aujourd'hui, nous, on table quand même toujours sur une hausse des taux plutôt en septembre, en fait. Donc, on voit que les hausses des taux sont quand même en train de se reporter plutôt vers 2016 parce qu'il y a eu clairement un affaiblissement de l'économie américaine au cours du premier trimestre. Et puis, le dernier minute du FOMC montre la Fed en prend compte. Pour nous, malgré tout, on a eu une amélioration des conditions de l'emploi très très forte. On a un indice qu'on regarde, par exemple, qui est celui de la Fed de Kansas, qui va passer en territoire positif, probablement autour de septembre-octobre, et c'est précisément dans les deux derniers resserrements monétaires, à ce moment-là, que la Fed a agi. Donc on reste là-dessus. On aura probablement un deuxième trimestre aux États-Unis qui va être en miroir du premier trimestre avec une économie qui va être probablement très forte, jusqu'à pourquoi pas 4% de croissance au cours du deuxième trimestre. Ça nous paraît tout à fait possible.
Donc là, effectivement, on reste sur ce scénario, avec un peu de volatilité selon les...
Voilà, le premier trimestre, si vous voulez, on a eu une baisse des investissements pétroliers, mais le pétrole est revenu. En partie, donc ça devrait là se tasser. On a eu une très très forte hausse du dollar, mais là il s'est stabilisé. On a eu des grèves, elles sont terminées. On a eu un climat très rigoureux, on est maintenant sur le printemps. Donc dans l'ensemble, beaucoup de facteurs saisonniers qui laissent penser que l'économie américaine va rebondir fortement. Et puis toujours cette idée de baisse des prix à la pompe qui fait qu'on aura probablement quand même un rebond assez significatif de la consommation américaine. Alors on tablait là-dessus un petit peu plus tôt, mais on reste quand même sur cette anticipation, fort rebond à un moment donné de la consommation américaine. Et donc une croissance qui va repartir assez fort. Donc je pense qu'il ne faut pas trop penser à des anticipations. Enfin, il ne faut pas trop repousser les anticipations de la Fed. Ce sera quand même plutôt avant la fin de l'année pour nous.
Du côté des pays émergents, on avait ces effets, hein, pétrole, baisse du pétrole et hausse du dollar des derniers mois. Aujourd'hui, l'environnement a un peu changé, pas complètement sur le pétrole, mais le dollar, vous l'avez dit. Est-ce que ça change le regard de l'investisseur sur ces pays émergents?
Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer. D'abord, si on a effectivement ces chiffres économiques aux États-Unis, il va y avoir des pays, notamment en Asie, qui vont assez largement profiter du rebond de la consommation américaine. Je pense qu'aussi en termes d'investissement, il y a des choses qui sont en train de changer. Je regardais un investisseur il y a quelques semaines, un investisseur en obligations d'État français, il pensait obtenir 0,50% par an, il a perdu plus de 4% en 4 semaines. Donc on se dit aujourd'hui peut-être finalement investir sur des obligations émergentes qui offrent des rendements de 5% supérieurs à ceux des obligations développées, c'est pas inintéressant et c'est peut-être pas si risqué que ça. Et quand on regarde les niveaux de valorisation notamment de ces devises par rapport au dollar, on dit qu'effectivement c'est probablement le moment d'investir. Donc il serait pas étonnant qu'on ait un retour avec des chiffres de croissance économique qui s'améliorent, un retour cette fois-ci plus sur les marchés émergents et notamment les marchés asiatiques en premier lieu.
Est-ce que du côté du Japon, il y a plus de visibilité ou il y a un peu toujours des doutes
Alors, moi, je pense qu'il y a plus de visibilité. On a toujours cette croissance du crédit qui est là. Donc, la sortie de déflation est en train de faire son œuvre. Et puis, quand on regarde les sondages économiques, que ce soit la confiance des consommateurs, que ce soit la confiance des entrepreneurs, on a quand même une amélioration. On est en train de sortir progressivement. Plus longtemps que prévu, c'est vraiment, en tout cas on en sort, du choc créé par la hausse de la TVA l'année dernière. Et on a eu notamment une très très bonne surprise sur le PIB japonais. Et les actions japonaises vont en bénéficier, mais à double titre. D'une part parce que l'économie est en train de s'améliorer, et d'autre part parce que l'optimisme revenant, ces entreprises qui ont aujourd'hui beaucoup de cash vont commencer à le mettre au travail. Alors pas forcément de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas trop compter quand même sur l'investissement. Il y a des surcapacités mondiales encore assez importantes, mais beaucoup plus en termes de rachat d'actions et de fusion-acquisition. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Les entreprises japonaises sont en train d'augmenter le retour sur actions en rachetant leurs actions. Et ça, c'est une excellente chose, évidemment, pour les marchés.
Le mot de la fin, l'allocation d'actifs, globalement, elle reste en faveur des marchés actions, malgré ces soubresauts-là qu'on a
rappelé. Toujours en faveur des marchés actions. Alors, on a perdu cette idée de rallye ininterrompue. On avait à la fois un rebond de la croissance et des taux bas pour longtemps. Il faut bien admettre qu'on aura un rebond de la croissance, mais que les taux sont en train de monter. Donc, un marché peut-être un petit peu plus erratique qu'auparavant, mais toujours très positif sur les marchés actions, avec une préférence pour l'Asie, qu'elle soit Japon ou qu'elle soit émergente.
Merci Frédéric Rollin.
Merci.